Retrouvez Brume, la radio campus de Lyon, lors de la nuit des chercheurs ce vendredi 26 septembre. Au Planétarium de Vaux-en-Velin. Studio radio in situ pour couvrir la nuit des chercheurs, l'événement qui inaugure cette année l'édition 2014 de la Fête de la Science. Soirée spéciale à la rencontre des acteurs de la science, des chercheurs, votre radio campus s'offre un moment ludique de découverte parmi le public et plonge dans le monde passionnant de la recherche d'aujourd'hui.
Archimedeskracht.
Newton Aschapjas.
We vliegen. Of Franklin.
La nuit des chercheurs, c'est une autre expérience. Vivez-la, le 26 septembre.
Brume a couvert pour vous la nuit des chercheurs, qui se déroulait le vendredi 26 septembre au Planétarium de Vaux-en-Velin.
Vous êtes toujours sur Brume pour la nuit des chercheurs au Planétarium de Vaux-en-Velin. Et j'ai avec moi Julie et Morgane, qui vont nous parler de cuisine. Je ne me trompe pas, mais la cuisine, c'est de la recherche.
Et oui, on peut faire de la recherche sur la cuisine. Donc nous, on cherche sur tout ce qui est choix culinaire, sur quoi les gens se basent pour choisir un plat ou une recette, et donc quels sont les critères qui peuvent rentrer en compte dans ce choix, et notamment quelle est la place du goût dans ces choix. Donc pour ça, on a fait plusieurs études, dont une où on demandait aux gens faire la cuisine, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? On leur demandait 5 mots, et donc on obtient des résultats où le goût, certes, apparaît, mais parmi tout ce qui est convivialité, partage, plaisir. Donc faire la cuisine, c'est le goût, mais pas que. Et ensuite, on a continué à faire d'autres études pour voir les différents critères de choix qui pouvaient rentrer en compte. Et est-ce que si cela a changé selon les variables telles que le sexe, si c'est des hommes, des femmes, est-ce que le discours est différent? Si c'est des gens âgés ou si c'est des gens plus jeunes, est-ce que le discours est différent? Ainsi de suite. Donc croiser différentes études avec différentes méthodes, que ce soit des entretiens, des questionnaires ou des observations, pour affiner la place du goût dans les choix culinaires.
Dans quelle discipline on peut classer cette recherche ?
Donc moi, je suis en psychologie sociale. Donc c'est un mix entre la psychologie et la sociologie. Donc on étudie à la fois les caractéristiques individuelles des personnes. Donc par exemple, pour un point un peu psychologie, on étudie la néophobie. Est-ce que les gens aiment manger des nouveaux aliments ou est-ce qu'ils en ont peur ? Du coup, plus néophobe quand on en a peur ou plus néophile quand on en a envie. Donc du côté plus sociologie, c'est ta position dans la société. Donc est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme, est-ce que je ne sais pas quel genre de travail j'ai, quel niveau de salaire j'ai, et ainsi de suite, tout un tas de petits critères de position sociale. Qu'est-ce qu'on peut rentrer d'autre comme critère? Bon, bah, là, j'en ai pas d'autres qui viennent.
Le niveau de diplôme, par exemple. Entendu, effectivement, c'est des variables qui font changer les résultats, j'imagine. Et pourquoi vous avez choisi la cuisine ?
La cuisine. Alors, parce qu'à la base, j'étais intéressée par tout ce qui était diététique et nutrition. Donc, j'ai fait un BTS diététique. Puis, je me questionnais sur pourquoi les gens ne mangent pas tous parfaitement bien. Pourquoi est-ce qu'ils n'équilibrent pas tous leurs repas avec une bonne dose de protéines, une bonne dose de légumes, une bonne dose de féculents. Et donc je me suis rendu compte que la psychologie, ça pouvait aider à comprendre ça. Qu'au final, c'était peut-être pas vraiment important pour certaines personnes, l'équilibre alimentaire, parce que juste dans leur vie, c'était pas un point intéressant, quoi. Et que ça servait à rien de vouloir les forcer à s'équilibrer alors que ça les intéresse pas, quoi. Donc la psychologie, ça permet d'avoir un point de vue un peu différent sur la diététique, l'alimentation, etc.
Effectivement, le vécu d'une personne en fait, peut complètement altérer sa façon de manger et même de concevoir la nourriture.
Après, c'est tout un apprentissage, le vécu de la personne et aussi tout ce qui est culturel. Par exemple, nous, dans notre société, on ne mange pas vraiment de pâte à la confiture. Ou alors, c'est pour faire un test, peut-être parce qu'on est adolescent et qu'on veut prouver à nos parents qu'on fait différemment d'eux. Bon, c'est un cliché un peu, hein. Mais c'était pour avoir un exemple un peu parlant. Et donc il y a des normes aussi, par exemple on mange une entrée, un plat, un dessert, l'entrée ce sera plutôt salé, voire un peu cru souvent, le plat ce sera quelque chose de chaud et salé, et le dessert quelque chose de sucré et qui se trouve à la fin, plus ou moins avec du fromage. Enfin, il y a tout un tas de normes qu'on a en France, quoi, enfin, dans notre culture française, qui aussi influencent notre façon de faire la cuisine et nos choix, quoi.
Oui, qui ne sont pas du tout les mêmes dans d'autres pays. Au final, si on est à l'autre bout de la planète, on ne mange pas forcément de la même manière.
Tout à fait. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas de comparaison interculturelle, mais ça pourrait être un bon point dans la suite de nos recherches, quoi.
Et du coup, l'objectif de cette recherche, en fait, vous avez interviewé beaucoup de personnes, fait des entretiens pour connaître effectivement un peu leur vécu face à la nourriture et la façon dont ils cuisinent. Mais qu'est-ce que vous allez en faire de ces données ?
Donc, à la fin, c'est pour réussir à créer une tablette ou un outil numérique qui puisse aider les gens dans la préparation des repas, dans lequel ils pourraient rentrer différents critères. Après, ils sont relativement libres, ils peuvent rentrer si c'est des hommes, des femmes, combien de personnes il y a dans leur famille, qu'est-ce qu'ils aiment moins, quel niveau de cuisine ils ont. Pour ça, il y aura peut-être un petit quiz pour que ce soit plus sympa à répondre. Et donc, partant de là, on pourra les aider dans la préparation des repas, leur proposer des recettes qui soient adaptées, à la fois au nombre de personnes qui viennent, au goût des personnes, etc. Voire, dans un futur peut-être plus ou moins proche, les aider aussi avec, par exemple, ou des Google Glasses ou des trucs de ce genre qui permettront de visualiser la personne, enfin, de visualiser ce qu'on va préparer et donc d'être aidé dans la préparation jusqu'à ce point-là, quoi.
Oui, de la cuisine assistée, ça serait assez fou. Cuisine augmentée, au final. Et ben, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Et je ne sais pas combien de temps va durer encore cette recherche.
Là, il me reste un an. Donc, je suis en thèse en psychologie sociale. Et il me reste un an, voilà, pour finir cette recherche.
On se retrouve un peu plus tard pour la suite de la Nuit des chercheurs sur Brume, Radio Campus Lyon.
Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite... Les magazines.
Moi, je travaille sur les inondations historiques en France, en fait. Donc, j'étudie un petit peu ce qui s'est passé avant pour voir comment on peut gérer ces impacts. Donc, je veux valoriser la mémoire de ces événements, je veux valoriser une culture du risque, une mémoire du risque, pour connaître les impacts précis de ces événements pour pouvoir les gérer dans le futur. Moi, mon travail, c'est vraiment de collecter en fait, les données disponibles sur cet événement et de faire la chronologie, en fait. De retracer ce qui s'est passé du phénomène physique, donc de la pluie qui est tombée sur le territoire, jusqu'aux impacts économiques, jusqu'aux répercussions politiques. Donc, ce qui va nous donner des informations après sur comment gérer ce genre d'événement et qu'est-ce qu'on peut attendre en fait de ces événements. Un exemple tout simple, c'est le nombre de morts et la circonstance de décès. On peut, si on a une information suffisamment précise, on peut savoir où la personne est morte, dans quelles circonstances. Et du coup, on peut s'attendre à voir ce genre d'accident par la suite. Je pense que c'est intéressant, c'est un exercice pour nous aussi. Ça montre, ça permet de savoir si on peut présenter notre recherche aussi aux yeux de tous, si c'est compréhensible. Ça nous permet de mettre les idées au clair. Et puis c'est très enrichissant parce qu'on a des réponses qui sont justement parfois assez... C'est assez curieux.
Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite, les magazines.
On est toujours au Planétarium de Vau-en-Velin pour la Nuit des chercheurs et j'ai avec moi Egidio. Tu es chercheur, mais dis-moi en quoi ?
Je travaille dans un laboratoire de linguistique. Voilà. Donc je travaille sur l'évolution des langues personnellement et la description des systèmes phonologiques, c'est-à-dire les systèmes sonores qui sont utilisés dans les langues du monde.
Tu participes ce soir à la Nuit des chercheurs. Qu'est-ce que tu proposes ?
Ce soir, moi, je propose une expérience avec Marie. C'est surtout l'expérience de Marie. C'est son travail sur les liens entre motricité et langage. C'est-à-dire quels sont les liens entre le fait de faire un mouvement et le fait de parler. Il y a plusieurs expériences. Il y a d'abord une expérience qui consiste à étudier la programmation d'un geste. Donc, on étudie de la motricité d'abord, et on regarde comment le cerveau programme un geste et comment il s'adapte à un changement de contexte dans ce geste-là. Et ensuite, on montre comment il y a une interaction entre le langage et la motricité, car en fait, lorsqu'on fait un mouvement, on a le cortex moteur qui s'active. Et en fait, cette zone-là est activée lorsqu'on fait un mouvement, lorsqu'on observe quelqu'un faire un mouvement, lorsqu'on imagine faire un mouvement et aussi lorsqu'on verbalise un mouvement. Donc quand je lis ou écoute ou dis un verbe d'action, par exemple, eh bien, j'ai le cortex moteur qui s'active aussi. Et en fait, l'objectif ultime de ce type de recherche, c'est d'aider par exemple sur certains dysfonctionnements, notamment la dyspraxie, donc ce sont les gens qui ont des problèmes au niveau moteur. Et en fait, on s'est aperçu que dans la mesure où verbaliser une action permet d'activer le cortex moteur, eh bien en fait, ces enfants-là, les enfants atteints de dyspraxie, vont pouvoir en disant le mot, par exemple, attraper, d'une certaine manière, renforcer le geste d'attraper qu'ils ne font pas correctement, naturellement. Voilà.
En fait, le langage a un vrai pouvoir.
Tout à fait, le pouvoir. Bon, alors, évidemment, là, on en est encore au stade de recherche fondamentale. c'est-à-dire de voir quels sont les liens, quels sont les taux d'activation, ces choses-là. Mais la piste, ce serait éventuellement de proposer des rééducations, après, à terme, grâce au langage. Donc, comment renforcer un petit peu le contrôle moteur. Voilà.
Je te remercie.
Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite, les magazines.
Brume 90.7, nous nous retrouvons pour la nuit des chercheurs depuis le planétarium de Vaux-en-Velin pour aller à la rencontre des chercheurs, recevoir des acteurs des sciences dans notre studio. Nous sommes maintenant avec Emmanuel Pascoviel qui du coup participe au projet Ma thèse en 180 secondes. Alors tu peux nous expliquer un petit peu quel est le sujet de ta thèse et justement qu'est-ce que tu vas offrir et proposer ce soir ?
Alors le sujet de ma thèse, alors si je donne le sujet scientifique, c'était évolution de la denture pharyngienne des cypriniformes. Bon alors pour faire simple, en fait j'ai étudié chez un groupe de poissons, chez la famille du poisson rouge, j'ai étudié leurs dents parce qu'ils ont des dents très diverses selon les espèces et voilà ce que j'ai étudié pendant 3 ans. En fait j'ai terminé ma thèse il y a quelques mois.
Et alors de participer à une manifestation comme ce soir là, c'est important quand on vient de la recherche, de la science.
Oui, moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense que c'est important que les gens, le grand public se rendent compte de ce qu'on fait dans les laboratoires parce que parfois certains se posent quand même la question finalement à quoi ça sert, il y a effectivement de l'argent public, alors en ce moment c'est tout un sujet. Donc je trouve ça intéressant et important.
Et alors qu'est-ce que c'est un petit peu les perspectives futures pour toi là ?
Alors pour moi, par rapport au sujet de ma thèse ou...
En général, oui, les deux.
Oui, alors parce que moi, en fait, personnellement, il se trouve que j'ai décidé de ne pas continuer dans la recherche en tant que telle, mais j'aime bien ça. Donc après, mon sujet de thèse, comme un peu tous les sujets de thèse, ouvre à plein de pistes, plein de questions. Donc je pense que c'est des choses qui seront reprises, que ce soit dans mon laboratoire ou ailleurs. Et puis parce que c'est vrai qu'aussi la recherche est vraiment intéressant, mais c'est aussi compliqué de trouver un poste dans la recherche comme dans plein d'autres secteurs. Et bon, c'est pour ça qu'on essaye aussi de temps en temps d'aller vers d'autres axes pour l'emploi.
D'accord. Alors dernière petite question, t'as un poisson rouge chez toi ou...
Non, même pas. Mais j'ai d'autres poissons, mais j'ai pas un poisson rouge. Mais alors surtout... Comme ça, une petite information pour les gens, ne mettez pas des poissons rouges dans les bocaux ronds parce que c'est vraiment terrible pour eux, c'est trop petit et c'est stressant.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup en tout cas.
Merci.
Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite, les magazines.
Vous êtes à la Nuit des chercheurs au Planétarium de Vaux-en-Velin sur Radio Brume. J'ai avec moi deux nouveaux chercheurs, Jérôme et Cécile. Alors, présentez-vous un petit peu.
Donc je m'appelle Jérôme Prado, je travaille au CNRS, au laboratoire Langage, Cerveau et Cognition, qui se situe à Bron, dans l'Institut de Sciences Cognitives.
Bonsoir, alors moi c'est Cécile, je suis étudiante en Master 2, et du coup j'ai été stagiaire avec Jérôme dans son laboratoire.
D'accord, le maître de stage et la stagiaire. Du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu sur quoi vous travaillez exactement et pourquoi vous êtes ici ce soir ?
Oui. Alors on est une équipe de psychologie et de neurosciences cognitives, c'est-à-dire qu'on étudie le fonctionnement cognitif, le fonctionnement du cerveau humain. Donc on utilise des machines comme des IRM fonctionnels par exemple, ou des scanners pour étudier le fonctionnement du cerveau. Et on étudie également les comportements des gens. Et aujourd'hui, on se disait, on a essayé de réfléchir à une petite expérience rigolote. Et on a pris comme point de départ le jeu 2048, qui est un jeu qui est extrêmement populaire et que vous connaissez sûrement et que plein de personnes jouent sur leur smartphone. Et on s'est dit, quelles sont les capacités cognitives qui interviennent dans 2048 ? Le but de notre petite expérience ce soir, c'est de disséquer ça. C'est-à-dire, on demande à des gens de venir, de jouer à 2048. On regarde leur score. Et puis ensuite, on leur demande de faire des petites expériences qui mesurent leur mémoire de travail, leur degré de manipulation des nombres, leur prise de risque. Et on va essayer de corréler tout ça, c'est-à-dire de voir dans quelle mesure tous ces facteurs jouent dans leur performance à 2048. Et normalement, à la fin de la soirée, on devrait avoir une petite idée peut-être de ce qui rentre en jeu dans 2048.
Est-ce que c'est un jeu qui nous rend plus intelligents ?
Alors, j'en sais rien, je sais pas, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va voir si par exemple, connaître bien ces tables de multiplication, c'est corrélé avec 2048. Ça, j'en doute un peu, mais ou sa capacité attentionnelle, spatiale, par exemple. Et si c'est le cas, on peut très bien imaginer qu'en jouant à 2048, plein d'heures dans la journée, on peut peut-être devenir de plus en plus fort en termes d'attention spatiale ou de mémoire de travail, ce genre de choses.
Ce sera la conclusion de la soirée, savoir si vous devez vous entraîner plus dans le métro ou pas en 2048.
Donc en gros, savoir si ça pourrait effectivement booster nos compétences cognitives, en gros, ce serait un peu ça.
Oui, c'est un des grands domaines de recherche en ce moment en psychologie cognitive et en neurosciences, et dans quelle mesure on peut augmenter nos capacités cognitives. Alors, déjà, avant de répondre à cette question, il faut déjà voir ce qui rentre en jeu dans ce type de petit jeu, en fait. Et une fois qu'on a fait ça, pourquoi pas, c'est tout à fait possible d'imaginer que peut-être on peut entraîner son attention.
Et en dehors de cette petite expérience que vous nous proposez, dans la vie de tous les jours, comment ça se passe, la recherche ?
Alors, comment ça se passe finalement pas très très différemment de ce qu'il y a ici, c'est-à-dire qu'on fait... On fait des petites expériences, en fait. Donc moi, je suis chercheur en psychologie cognitive et en neurosciences. Donc ça nécessite de... On fait des expériences sur les adultes et les enfants. Et on met au point des petites expériences où on essaie d'étudier les capacités numériques, les capacités de raisonnement. On essaie de voir... on invite les gens à venir dans notre laboratoire, à faire des petites expériences. On regarde leurs performances. On regarde quelles sont les régions cérébrales qui sont engagées quand ils font telle ou telle tâche. Et puis, on regarde également comment ça change avec, pour les enfants, par exemple, avec l'éducation. Qu'est-ce qui se passe avec le développement, avec les différentes techniques de pédagogie, et qu'est-ce qui fait que des enfants ont plus de difficultés que d'autres. Voilà, mais en fait, c'est assez similaire à ce que vous voyez ici, c'est-à-dire finalement des chaises avec des ordinateurs en face et des gens qui font des petits jeux, en fait, qui nous permettent de mesurer leur temps de réaction, leur pourcentage de bonnes réponses, et avec des techniques un peu plus avancées, leur activité cérébrale.
Mais est-ce qu'on peut mettre un mot sur l'objectif de cette recherche ? Ou est-ce que c'est... Enfin, parce que c'est quand même super vaste.
Oui, alors, donc, la petite expérience qu'on fait autour de 2048, on avait pensé que c'était quelque chose qui était du coup assez intéressant et ludique à faire pour la nuit des chercheurs. Et finalement, c'est assez proche en termes de méthodologie de ce qu'on fait. Mais nous, ce qu'on fait dans l'équipe, en fait, c'est qu'on essaie de comprendre un peu... pourquoi les enfants ont des problèmes d'apprentissage, par exemple. Donc notamment avec les mathématiques, mais également avec le raisonnement. Donc on s'intéresse beaucoup aux enfants qui sont à l'école élémentaire, par exemple, à partir de 8 ans, entre 8, 12, 13 ans. On essaie de voir quelles sont les régions du cerveau qui changent quand ils apprennent, comment leur comportement change quand ils apprennent. Et puis surtout, en fait, le but de notre recherche, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des enfants qui apprennent un peu moins bien. Donc, par exemple, beaucoup de gens ont entendu parler des dys, comme la dyslexie, la dyscalculie. Dyslexie qui a un problème d'apprentissage de lecture, dyscalculie a un problème d'apprentissage des nombres. Et ben, l'un des objectifs de notre recherche, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes cérébraux peut-être qui peuvent engendrer ça. Et ça peut aider potentiellement le diagnostic, le repérage, et puis peut-être même essayer d'élaborer des techniques de remédiation pour ce genre de pathologie.
Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite, les magazines.
Nous sommes toujours à la nuit des chercheurs et du coup, on va donner la parole un petit peu à des spectateurs, des gens qui sont venus visiter. Tu peux nous donner ton prénom ?
Carole.
Carole, salut.
Bonjour.
Comment ça se passe un petit peu comment tu as eu l'idée de venir là ? C'est des domaines qui te passionnent ou c'était plutôt...
Non, en fait, c'était pour savoir ce que c'était exactement. J'avais déjà fait ça il y a 2-3 ans, quand même, avec des chercheurs. Et là, c'était pour voir un petit peu ce qu'il y avait comme différentes activités ou autre. Quoi.
D'accord. Et alors, toi, du coup, ton prénom ?
Bichente.
Et Bichente, par exemple, qu'est-ce que tu as pu voir ici ce soir ? Qu'est-ce que tu as fait, des ateliers, des conférences ?
Non, pas encore, justement. En fait, on va faire un peu le tour, on verra ce qu'il y a d'intéressant.
D'accord. Et vous trouvez que c'est intéressant aussi, c'est déjà l'idée qu'il y ait comme ça des gens du domaine scientifique, des chercheurs qui présentent aussi, qui arrivent à communiquer sur des termes assez simples avec le public.
Une info de gens comme ça.
Ouais, c'est intéressant et en plus ça ouvre des perspectives en fait. Si on a des questions ou justement si on est intéressé par une science précise.
Et vous, ça vous donne envie du coup de vous plonger un peu plus là-dedans ou c'est comme ça, c'est plus quelque chose une fois par an, une fois de temps en temps
Il y a certains domaines intéressants, je pense qu'il y a moyen de pousser un peu plus, donc pourquoi pas.
Moi, c'est plus ponctuel, on va dire, pour compléter ma curiosité, on va dire.
Ok, je vous remercie beaucoup.
Retrouvez Brume, la radio campus de Lyon, lors de la nuit des chercheurs ce vendredi 26 septembre. Au Planétarium de Vaux-en-Velin. Studio radio in situ pour couvrir la nuit des chercheurs, l'événement qui inaugure cette année l'édition 2014 de la Fête de la Science. Soirée spéciale à la rencontre des acteurs de la science, des chercheurs, votre Radio Campus s'offre un moment ludique de découverte parmi le public et plonge dans le monde passionnant de la recherche d'aujourd'hui.
Archimedeskracht.
Newton Asclepius.
La nuit des chercheurs, c'est une autre expérience. Vivez-la le 26 septembre.